Et si nous parlions aujourd'hui de la gnaquéa? La gnaquéa, qu'est-ce que c'est? Voici la définition donnée dans la revue La Recherche, l'actualité des sciences. La gnaquéa est un conglomérat de filaments, un amas d'une centaine de milliers de galaxies. Notre galaxie, la Voie lactée, en fait partie. Les mensurations de la gnaquéa sont gigantesques. Son diamètre est estimé à 5200 fois celui de la Voie lactée et sa masse à 100 millions de milliards de fois celle du Soleil. Si nous pensons à la taille de notre Terre, déjà infime par rapport au Soleil et infiniment plus petite encore dans notre Voie lactée, nous sommes pris d'un vertige effroyable. Que sommes-nous? Et si nous nous souvenons que la gnaquéa n'est qu'un amas de galaxies parmi d'autres, nous ne savons plus rien. Et pourtant, malgré notre infinie petitesse, nos savants ont pu non seulement détecter, mais même cartographier la gnaquéa. Il nous faut réfléchir sainement, sinon nous sommes perdus. Nous savons que la création tout entière est dans la grande main de Dieu, qui tient tout et décide de tout. Dieu créa les univers, et les anges, à qui on peut imaginer ce qui suit, il demanda de gérer ces univers. Pour faire sa création matérielle infinie, Dieu avait dû d'abord penser l'infiniment petit, infini lui aussi, mais exprimé par une formule mathématique inverse. Dieu pensa ensuite la vie, et les végétaux, puis les animaux furent créés. Et cela était bon. Mais Dieu voulait réaliser la synthèse entre la matière et l'esprit. Et Dieu créa l'homme. Homme et femme, il le fit. Ainsi, l'homme, synthèse de la création, se trouvait comme au centre de la création. D'un côté la matière, de l'autre l'esprit. Et cela était très bon. Situé au centre de la création, matière et esprit, l'homme est également, à une échelle qui lui est propre, comme un univers, car en lui, il contient tous les infiniment petits dont il est fait. Un être vivant et sensible, Dieu ajouta une fibre de son esprit, et l'homme était créé, et cela était très bon. Mais jaloux, Lucifer décida de détruire l'homme. Nous connaissons tous la suite, aussi ne nous y attarderons-nous pas. L'œuvre de Dieu, on ne peut pas la détruire, car elle est dans sa pensée éternelle et dans sa mémoire, elle aussi éternelle. Mais comme l'homme était la merveille de la création, Dieu voulut le sauver, malgré son péché. Dieu voulait sauver l'homme, et pour le rapprocher de lui, en raison de son amour, il s'incarna dans un corps d'homme. Mais voici une question que de nombreuses personnes se posent. Comment Dieu, l'infini de l'infini, comment Dieu pourra-t-il entrer dans le corps infiniment minuscule d'un homme charnel? Et que sera l'esprit de l'homme? Réfléchissons. Nous savons que tout, absolument tout, est possible à Dieu. Il se prépare donc une famille qu'il purifie. Cela prendra des siècles pour l'homme, mais un seul instant pour Dieu. Puis il se choisit une vierge. Tout ça, c'est facile à comprendre. Mais contemplons la suite. L'univers est dans la grande main de Dieu qui pense, qui aime, qui crée. Bientôt, Dieu regarde l'homme, chair et esprit. Et voici qu'une étincelle de son esprit jaillit et pénètre en l'homme. Cet homme, c'est Jésus. Jésus, le petit enfant de Noël. Jésus, vraiment homme, et cependant envahi par l'étincelle de la pensée du Père. Désormais, Jésus va croître comme tous les hommes, et son esprit divin d'amour et d'intelligence formera sa personnalité, mais sans modifier l'intelligence divine mobilisée sur la terre pour sauver tous les hommes et remettre de l'ordre dans le monde. Mais Jésus, fils de Dieu, et Dieu aussi, car parole divine, Jésus laissera mourir son corps pour laisser la parole rejoindre le Père au sein de la Trinité. Puis il ressuscitera, mais avec un corps glorieux. Pourtant, l'œuvre de Jésus était inachevée à cause de tous les hommes qui viendraient après lui et continueraient à subir les assauts de Satan. Jésus, ayant promis à ses disciples de rester avec eux jusqu'à la fin des temps, institua son Eucharistie, sa présence continuelle et réelle au milieu des hommes. Dieu nous crée. Les hommes pêchent et deviennent très malheureux. Dieu veut sauver les hommes et sa parole s'incarne en Jésus. Mais Jésus doit retourner au Père tout en restant avec les hommes. Il invente donc l'Eucharistie, puis, comprenant notre faiblesse, Jésus nous envoie son Esprit Saint. Ainsi, Dieu demeure avec les hommes. Les relations entre Dieu et les hommes sont grandement facilitées, tout en restant très mystérieuses. Mais les hommes, toujours tentés par Satan, vont continuer à pécher, et le malheur s'installe dans le monde. Et les hommes continuent à mourir alors qu'ils étaient destinés à la vie éternelle. Mais voici l'Agnakéa. L'information concernant l'Agnakéa est très récente, et pourtant elle suscite déjà beaucoup de réflexions. Qui a pu réaliser une telle œuvre? Quelle intelligence l'a fait fonctionner? Et nous qui découvrons cette œuvre fabuleuse, que sommes-nous? Et sommes-nous destinés à disparaître totalement? Incontestablement, Dieu est sous-entendu derrière toutes ces questions. Bravo la science moderne. Mais quand notre monde reviendra-t-il à Jésus? Ceci est incontestablement le plus gros souci de nombreux chrétiens. Mais à travers les découvertes de la science moderne, Dieu se révèle. Dieu se révèle alors que beaucoup, suivant les Lumières, beaucoup pensaient que la science montrerait définitivement l'inexistence de Dieu. Mais Dieu nous prouve son existence, et nous, nous sommes à la fois ébahis et ravis. Ébahis par tant de merveilles, et ravis par l'amour de Dieu que nous adorons.